L'heure du journal de la rédaction avec vous, Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Beaucoup de questions au lendemain de l'intrusion de manifestants à la Pitié-Salpêtrière. Selon la direction, certains ont tenté de pénétrer dans le service de réanimation. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est à la Pitié ce midi, d'où elle doit s'exprimer. Le débat se poursuit autour de la reconstruction de Notre-Dame. Peut-elle se faire en 5 ans, comme l'exige le chef de l'État? L'Assemblée nationale discute aujourd'hui en commission du projet de loi Notre-Dame. Les présidents français et italiens rendent hommage aujourd'hui à Léonard de Vinci, 5 siècles après sa mort. Ils sont au château royal d'Amboise, un anniversaire qui tombe à point nommé pour tenter une réconciliation entre les deux pays. Cela fait 5 siècles donc aujourd'hui que Léonard de Vinci s'est éteint. Nous évoquerons également les sanctions américaines contre l'Iran qui sont renforcées à partir d'aujourd'hui. Washington a décidé de ne pas renouveler les exemptions dont bénéficiaient 8 pays pour continuer à acheter du pétrole iranien. Et puis notre invité dans le journal de midi et demi dans le cadre de la caravane des Européennes sera Lison Rebinder, elle est la coordinatrice de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires. Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous Raphaël.
Pourquoi continue-t-on à se chercher des chefs de cette façon-là en démocratie alors qu'on demande plus de participation? C'est à ce mystère qu'essaie de répondre Vincent Martini, le politiste sera notre invité. Il a signé Le Retour du Prince, c'est chez Flammarion.
A tout à l'heure. Que s'est-il passé hier après-midi à la Pitié-Salpêtrière? Au lendemain de ce 1er mai agité, la question est posée après que plusieurs dizaines de personnes sont entrées dans l'hôpital en marge de la manifestation. Et selon la direction, certaines d'entre elles étaient menaçantes. Elles ont même tenté de pénétrer dans le service de réanimation avant d'être délogées par la police. D'autres individus se seraient simplement réfugiés dans l'hôpital pour fuir les gaz lacrymogènes et les violences. Une 30aine de personnes ont été placées en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Elle va tenter d'éclaircir les circonstances exactes de l'incident. Bonjour Claire Flochel.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Vous vous trouvez sur place à la Pitié-Salpêtrière où la ministre de la Santé Agnès Buzyn vient de s'exprimer ou doit s'exprimer.
Oui, Agnès Buzyn est arrivée un peu avant midi, accueillie par le directeur de l'Agence régionale de santé. Ce qui est flagrant, c'est qu'à l'entrée de l'hôpital, quelques tessons de bouteilles jonchent le sol. Un loquet de porte également est perceptible dans la pelouse. Après avoir rencontré les personnels soignants, la ministre de la Santé a donc expliqué les circonstances de l'intrusion.
Aujourd'hui, vous savez, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu d'abord des personnes qui ont quand même forcé des grilles. Eux, ils avaient l'intention de rentrer dans un lieu qui était fermé au public. Et donc, il y a eu une volonté d'intrusion dans l'hôpital. Les personnes qui ont forcé les grilles savaient que c'était un hôpital puisque la directrice était là, leur disait de ne pas rentrer. Ils ont confirmé que c'était un lieu de soins et qu'ils savaient qu'ils étaient dans un hôpital. Ils ont souhaité rentrer. Ça ne veut pas dire que les personnes qui étaient sur la passerelle avaient une volonté de nuire à une réanimation. Je ne le dis pas. Aujourd'hui, je ne peux pas... je ne peux pas qualifier les circonstances. Je pense qu'il y avait des personnes plus ou moins bien intentionnées, plus ou moins mal intentionnées. L'enquête nous dira à quel point des personnes souhaitaient rentrer dans l'hôpital de façon volontaire. L'enquête est en cours.
Agnès Buzyn reste donc prudente et ne reprend pas les termes d'attaque prononcés par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Sur place, les syndicats FO ou Sud parlent de coups de com. Pour eux, les images tournées par de nombreux anonymes montrent que les manifestants ont pénétré dans l'hôpital pour se protéger d'une charge de CRS et des gaz lacrymogènes. Un infirmier présent hier après-midi nous a expliqué, lui, qu'il n'y avait eu aucune violence volontaire contre les personnels soignants. Il s'agissait, selon lui, d'un simple mouvement de panique.
Merci à vous Claire Flochel, merci également à Romain Luquiens à la technique. Faut-il reconstruire Notre-Dame à l'identique ou faut-il effectuer un geste architectural contemporain, notamment pour la fameuse flèche de Viollet-le-Duc détruite lors de l'incendie? L'Assemblée nationale discute aujourd'hui en commission le projet de loi Notre-Dame, un projet voulu par le chef de l'État pour reconstruire au plus vite la cathédrale. Le texte veut autoriser notamment des dérogations aux normes des marchés publics et de protection du patrimoine. Bonjour Cécile de Carvaz-Doué.
Bonjour.
Vous revenez de cette commission, plus d'une centaine d'amendements sont sont toujours en cours de discussion.
Oui, si tous les députés de la commission culture de l'Assemblée ont donc salué l'engagement du gouvernement et la vague de dons pour reconstruire Notre-Dame, nombreux sont ceux ce matin qui s'inquiètent de ce projet de loi qui compte 9 articles. La question de l'abattement fiscal, tout d'abord de 75% sur les dons, a fait tiquer du groupe LR à la France Insoumise. Pourquoi permettre aux particuliers qui donnent pour Notre-Dame d'avoir une réduction d'impôt sur leurs dons sans plafonnement, alors que pour les Restos du Cœur, par exemple, il y a le même abattement de 75%, mais plafonné à 135 euros. Surtout, que deviendront les fonds collectés qui s'approchent aujourd'hui du milliard d'euros, alors que Notre-Dame n'aurait besoin au plus que de 700 millions d'euros selon les experts. Alors à cela, la rapporteure prévient que pour l'instant, il n'y a aucun diagnostic du prix des travaux de Notre-Dame, que la plupart des dons ne sont que des promesses de dons, et surtout qu'il faut respecter les donateurs, donc tout ira à la cathédrale. Autre interrogation, la création d'un établissement public consacré aux travaux de Notre-Dame, alors qu'il existe en France déjà au moins 3 établissements publics du patrimoine qui pourraient s'en charger. Réponse de la rapporteure, Anne Brunira, il s'agit d'associer la mairie de Paris et le diocèse aux travaux. Le député de la circonscription de Paris, dans lequel est Notre-Dame, est d'ailleurs venu expliquer que les travaux de Notre-Dame permettraient également d'aménager le parvis et les accès pour améliorer l'accueil des touristes. Mais ce qui gêne sur surtout la plupart des députés de l'opposition, comme l'immense majorité des experts du patrimoine d'ailleurs, dans ce projet de loi, c'est l'article 9 qui permet de déroger aux règles de l'urbanisme, de l'environnement et surtout au code du patrimoine qui impose depuis le 19e siècle de reconstruire le bâtiment tel qu'il était avant l'accident. Mais la rapporteure répond « La restauration à l'identique est impossible. D'ailleurs, qu'est-ce que l'identique ? Il faut intégrer les nouveaux matériaux, comme lors de l'incendie de la cathédrale de Nantes, d'où l'intérêt du concours international d'architectes prévu pour reconstruire la flèche du monument. »
Et le texte passera devant les députés en séance vendredi prochain. Quand Léonard de Vinci vient au secours de l'amitié franco-italienne, cela fait 5 siècles aujourd'hui que le génie italien s'est éteint en France. Et à cette occasion, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui son homologue italien Sergio Mattarella en Touraine. Les deux hommes se sont recueillis sur la tombe du peintre à la chapelle Saint-Hubert du château royal d'Amboise. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Antoine.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. C'est un anniversaire qui tombe à point nommé pour tenter une réconciliation franco-italienne.
Oui, photo très symbolique des deux chefs d'État déposant des bouquets de lys blanc sur la tombe de Léonard. Symbole, vous l'avez dit, d'une réconciliation autour de la figure du génie toscan né italien mort en France. Emmanuel Macron et son homologue Sergio Mattarella sont ensuite arrivés sous le soleil au Clos Lucé, résidence d'été des rois de France, mise à la disposition de Léonard par François Ier. C'est là que le peintre s'est éteint il y a tout juste 500 ans. Commémoration et célébration de l'amitié franco-italienne, donc, dans une ville d'Amboise déserte. Le secteur est totalement bouclé, le dispositif de sécurité impressionnant. Les riverains du château royal ont même échappé in extremis à un arrêté municipal, leur interdisant de paraître à leurs fenêtres. Les deux chefs d'État se rendront ensuite au château de Chambord, inspiré, paraît-il, des plans du maître italien. Fin très officielle donc de la brouille entre les deux pays, sur fond de crise migratoire, de mouvement des gilets jaunes en France et de scrutin européen. Mais qu'on ne s'y trompe pas, entre Rome et Paris, les désaccords politiques demeurent. Et si le modéré et très francophile Sergio Mattarella a œuvré à la réconciliation, le rôle du président italien est surtout honorifique. Les chefs de l'exécutif et surtout l'homme fort du gouvernement, Matteo Salvini, ont certes baissé d'un ton, mais le projet de traité franco-italien censé relancer la relation transalpine reste pour l'heure au point mort.
Alors la brouille diplomatique, c'est du passé, c'est le message de ce midi, mais il y a une brouille artistique qui demeure.
Oui, querelle autour de la figure de Léonard de Vinci que les Français voudraient s'accaparer. Procès ancien rouvert à l'automne dernier par une sous-secrétaire d'État, membre de la Ligue de Matteo Salvini. Pas question, dit-elle alors, de prêter comme prévu les tableaux du peintre toscan au Louvre pour sa grande rétrospective d'octobre. Léonard est italien, il est seulement mort en France. Son œuvre doit d'abord être promue en Italie. Depuis bientôt 3 mois, les ministres de la culture des deux pays tentent d'aplanir les difficultés. L'Élysée assure que la rétrospective du Louvre se déroulera au mieux, ainsi que l'exposition consacrée à Raphaël l'an prochain au Quirinal à Rome, événement pour lequel les musées français prêteront leurs tableaux. Mais les conservateurs italiens vont-ils accepter de se séparer d'œuvres qu'ils jugent intransportables ? L'homme de Vitruve quittera-t-il Venise ? L'Annonciation, les offices à Florence ? La bataille d'experts fait rage, son issue est incertaine.
Merci à vous Louise Baudet, merci également à Jean-André Giannichini à la technique. Et puis sachez qu'une enquête préliminaire est en cours après un signalement des affaires culturelles sur des travaux réalisés au fameux château du Clos Lucé d'Amboise, là où déjeunent donc Emmanuel Macron et le président italien. Selon la Tribune de l'Art, une plainte pour travaux sur monuments historiques sans autorisation et destruction de monuments historiques suite à des travaux réalisés avant 2017 au Clos Lucé, où les néonanars de Vinci s'est éteint le 2 mai 1519. Une plainte a été évoquée donc par ce magazine. Midi 40 sur France Culture, les États-Unis renforcent leurs sanctions contre l'Iran à partir d'aujourd'hui. Washington a décidé de ne pas renouveler les exemptions dont bénéficiaient 8 pays pour continuer à acheter du pétrole iranien. Il s'agissait de la Chine, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Italie et la Grèce. À partir d'aujourd'hui, ces pays risquent de lourdes amendes de la part des États-Unis s'ils font ces transactions en dollars. Un exemple concret de guerre économique pratiquée par les États-Unis depuis que ce pays a quitté l'accord sur le nucléaire iranien en mai 2018. Un exemple parmi beaucoup d'autres, car l'Amérique de Donald Trump est à l'offensive sur tous les fronts en matière commerciale. Ali Laidi est chercheur à l'IRIS et auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre économique.
Les États-Unis sont en guerre économique contre tout le monde. Il y a des sanctions en Russie, il y a des sanctions en Iran, il y a des sanctions au Venezuela, il y a des sanctions à Cuba, il y a des sanctions très dures, très tendues avec la Chine, avec des négociations qu'on lui encore aujourd'hui, la semaine prochaine peut-être. Il y a des sanctions contre l'Union européenne sur l'acier et sur l'aluminium qui poussent l'Union européenne à renégocier ses relations économiques avec les États-Unis. Et le sentiment, c'est qu'il y a une dérive qui n'est pas due aux législateurs américains, il y a une dérive qui est due à l'administration américaine, qui apparaissait déjà sous les autres administrations. Un certain nombre de chercheurs américains commençaient à dire, même sous Obama, attention, on va peut-être un peu loin dans l'application de nos lois extraterritoriales, notamment dans nos relations avec nos alliés, mais aussi le grand risque que créent les Américains, c'est la menace sur la suprématie du dollar. Cette crainte, elle date déjà de l'administration Obama, elle date même de l'administration Clinton, il y avait des réflexions sur jusqu'où on va dans l'application extraterritoriale, mais simplement l'administration Trump l'applique avec des degrés qu'on n'a jamais vus jusqu'à présent.
Et pour aller plus loin, entretien en longueur avec Ali Laidi à lire sur notre site internet franceculture.fr. Guerre économique, les études montrent que les sanctions n'ont pas d'efficacité. Autre illustration du jusqu'au boutisme de Donald Trump, la résurrection de la loi Helms-Burton. Elle date de 1996, mais elle n'avait encore jamais été appliquée. En la faisant voter il y a 22 ans, Bill Clinton voulait faire plaisir aux cubano-américains de Floride. Cette loi, rédigée en des termes imprécis, doit permettre à ces cubano-américains qui s'estiment spoliés par la révolution cubaine de porter plainte contre les entreprises qui utilisent d'une manière ou d'une autre des biens expropriés par la Havane. Sauf que depuis sa création, les présidents américains successifs ont suspendu à chaque fois son application jusqu'à Donald Trump. Cette loi doit s'appliquer à partir d'aujourd'hui. Résultat, on s'attend à une avalanche de plaintes et à une spirale de recours croisés entre entreprises américaines et européennes. Illustration à Madrid avec notre correspondant Mathieu de Taillac.
José María Viñals, avocat spécialiste du droit international et des sanctions, voit défiler depuis 3 mois les représentants de grandes entreprises espagnoles, des chaînes hôtelières notamment, car à partir d'aujourd'hui, les familles d'exilés cubains, dont les biens ont été expropriés au moment de la Révolution, vont pouvoir porter plainte aux États-Unis contre les entreprises qui utilisent ces biens. En Europe, les entreprises espagnoles risquent d'être les plus touchées. De grands groupes hôteliers comme Meliá ou Iberostar exploitent des immeubles en coopération avec les autorités locales, parfois sur des terrains expropriés il y a plusieurs décennies.
L'Union européenne, c'est la première puissance du point de vue d'investissement sur l'île, qui est autour de 2 milliards d'euros à Cuba. Et l'Espagne, par exemple, c'est d'entre 300 et 400 millions l'investissement direct. Et aussi, il y a 900 millions annuels d'exportations espagnoles à Cuba.
En Espagne, le gouvernement est prêt à riposter. Déclaration de la porte-parole de l'exécutif, Isabel Cela.
L'Espagne va défendre les entreprises espagnoles qui ont une filiale à Cuba contre la loi Helms-Burton.
Des contre-mesures ont été prévues en Europe pour que les entreprises européennes lésées puissent se retourner contre les entreprises américaines qui les auraient attaquées. La guerre commerciale et judiciaire entre les États-Unis et l'Europe pourrait être sans précédent entre ces deux puissances alliées.
La loi des séries pour le gouvernement anglais qui doit affronter une nouvelle crise. Le ministre de la Défense vient d'être limogé. Gavin Williamson est soupçonné d'avoir laissé fuiter des informations liées au développement de la 5G. Il a été débarqué hier à Londres. La correspondance d'Antoine Gignot.
Il se dit victime d'une exécution sommaire et il prétend que les fuites ne viennent pas de lui. Mais Gavin Williamson n'a pas le choix, il s'en va. L'enquête interne du gouvernement montre qu'après avoir participé au comité secret sur le développement de la 5G, il a passé 11 minutes au téléphone avec un journaliste du Daily Telegraph. Le quotidien a ensuite publié des informations confidentielles sur la probable participation du groupe chinois Huawei au développement du réseau de téléphonie mobile. Conservateurs, travaillistes, libéraux-démocrates, tous sont d'accord pour mettre en avant la gravité de la situation, mais le départ du ministre de la Défense intervient aussi à un moment opportun pour Theresa May. Après l'avoir longtemps soutenue, après l'avoir aidée à nouer une alliance avec les unionistes nord-irlandais, il s'opposait ces dernières semaines ouvertement à la première ministre. Pour lui, le changement de cap sur le Brexit et l'ouverture de discussions avec les travaillistes n'étaient pas acceptables. Au ministère, c'est Penny Mordaunt qui le remplace, première femme ministre de la Défense, réserviste de la Navy et pro-Brexit de longue date.
Au Soudan, la transition politique en cours joue les prolongations. Les civils représentés par l'Alliance des syndicats professionnels soudanais et l'armée ne parviennent pas à tomber d'accord sur la composition du gouvernement de transition. Une situation qui fait craindre aux révolutionnaires une reprise en main du pouvoir par l'armée. Devant le QG de l'armée, les révolutionnaires poursuivent donc leur sit-in. Ils entendent montrer leur force et leur capacité de mobilisation dans une grande marche prévue aujourd'hui. Sur place, le reportage de notre envoyé spécial Martin Roux.
Tour de chauffe pour la grande marche prévue cet après-midi. Les manifestants déambulent et arrivent en flux continu. Ils espèrent être au moins 1 million aujourd'hui. Comme jeudi dernier, ils entendent maintenir la pression sur le Conseil de transition militaire pour qu'ils remettent le pouvoir aux civils. Les négociations actuellement en cours entre l'armée et les civils, représentés par l'Alliance des syndicats professionnels soudanais, patinent. Et les occupants de la place redoutent un démantèlement. Alors la marche d'aujourd'hui pourrait être décisive. Le camp installé par les manifestants sur cette place de la Révolution est un laboratoire. Laboratoire de la démocratie et des libertés retrouvées. Partout, des scènes de fortune pour prendre la parole. On parle politique, bien sûr, mais pas seulement. Le développement du pays et la place des femmes sont également évoqués. Mais tout ceci ne pourrait être qu'une parenthèse enchantée. Un jeune artiste qui occupe cette place depuis le 6 avril me disait sa crainte. Les transfuges de l'ancien régime, disait-il, sont prêts à récupérer leur poste. Alors des bus remplis de manifestants affluent depuis 2 jours vers Khartoum pour la marche de cet après-midi. Ils viennent notamment de Atbara, bastion de cette révolution et du Darfour. Sur cette place de la Révolution, devant le QG de l'armée soudanaise, départ de la marche prévu à 13h.
Au Bénin, deuxième journée sous tension dans les rues de Cotonou. Plusieurs centaines de partisans de l'ancien président béninois Boni Yayi ont dressé des barricades enflammées ce matin pour protéger sa résidence faisant face à l'armée. Il y a eu des tirs à balles réelles. On compte au moins un mort. Et puis en Grande-Bretagne, Julian Assange s'oppose à son extradition vers les États-Unis. La justice américaine veut poursuivre le cofondateur du site Wikileaks pour piratage informatique dans le cadre de la publication en 2010 de centaines de milliers de documents confidentiels. L'examen de cette requête a débuté ce matin devant le tribunal du district de Westminster. L'Assange a été arrêté le 11 avril dernier par la police britannique à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il s'était réfugié en 2012. Midi passé de 48 minutes sur France Culture. Aujourd'hui, nous recevons Lison Rebinder. Bonjour madame.
Bonjour.
Nous vous recevons donc dans le cadre de notre caravane européenne. Vous êtes chargée de plaidoyer au comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre Solidaire. Une ONG, un lobby donc, qui lutte entre autres contre les paradis fiscaux. Lison Rebinder, pourquoi peut-on considérer que les Pays-Bas et le Luxembourg sont des paradis fiscaux ?
Ces deux pays sont des paradis fiscaux au cœur de l'Union européenne, puisqu'ils offrent des dispositions qui permettent aux multinationales d'échapper à l'impôt dans les pays là où ils ont une vraie activité, là où ils ont des ventes, là où ils ont des salariés, et ils réussissent à transférer leurs profits dans des pays qui sont des paradis fiscaux, comme le Luxembourg et les Pays-Bas.
Annabelle Grelier.
Alors on parle des Pays-Bas et du Luxembourg, deux pays fondateurs de l'Union européenne, mais au sein de l'Europe, on pourrait très bien parler de l'Irlande, de Chypre, Malte ou même la Grande-Bretagne, enfin la City. Pourquoi a-t-on tant de mal à reconnaître qu'il y a des paradis fiscaux en Europe ?
La définition d'un paradis fiscal, elle est très politique. un pays n'apprécie pas d'être traité de paradis fiscal. D'ailleurs, le commissaire Pierre Moscovici à la fiscalité dit régulièrement qu'il n'y a pas de paradis fiscal au sein de l'Union européenne. En fait, c'est des définitions qui sont très politiques et de fait, ces pays facilitent les pratiques d'évasion fiscale. Ils accordent des tax rulings, des rescrits fiscaux, certaines dispositions sur la propriété intellectuelle. Mais ils détestent qu'on les nomme comme ça parce que ça les met aussi au banc de la communauté internationale.
Alors du coup, y a-t-il une réelle volonté politique de lutter contre les paradis fiscaux ? A-t-on vu des améliorations notoires alors dans ce domaine ?
Sur une dizaine d'années, il y a quand même eu des vraies améliorations. Déjà, il y a une vraie victoire citoyenne, puisqu'aujourd'hui, on reconnaît très facilement que l'évasion fiscale est un vrai problème et qu'elle est massive, qu'elle est industrielle. Il y a eu des avancées, notamment contre la fraude fiscale des individus. Après, sur la question de l'évasion fiscale des multinationales, on a encore aujourd'hui des vraies problématiques. Et il y a des mesures pourtant qu'on connaît, qui fonctionnent et qui ne sont pas encore appliquées.
Quand vous dites des individus, vous parlez des grosses fortunes ?
Des individus fortunés, moyennement fortunés, qui peuvent faire de la fraude fiscale, effectivement.
Mais sur les multinationales, vous dites, on est en train de perdre la bataille.
Alors, aujourd'hui, on se rend compte que les multinationales échappent massivement à l'impôt, qu'elles sont imposées à des taux ridiculement bas, notamment en comparaison avec les PME. Pourtant, on connaît les solutions. Une solution centrale, qui a déjà été discutée plusieurs fois au niveau européen, c'est la transparence. Il faut qu'on sache combien d'impôts payent les multinationales dans tous les pays où elles opèrent. Ça lèvera vraiment le voile de l'opacité qui permet aujourd'hui à ces entreprises de déplacer leurs impôts d'un pays à l'autre. Et c'est une mesure qui a été discutée au niveau européen et qui malheureusement n'a pas encore abouti.
Alors l'ingénierie financière a toujours un coup d'avance, hein, c'est ce qu'on coutume de dire les ONG. Alors qu'est-ce qui permettrait une lutte réellement efficace contre les paradis fiscaux et qui n'aurait jamais été mise en place ?
Donc il y a cette mesure de transparence dont je vous parlais, le reporting pays par pays, qui est central. Après, il faut aussi s'attaquer au système fiscal dans son ensemble. Aujourd'hui, il y a vraiment des failles dans le système international qui permettent aux entreprises, parfois en légalité, de déplacer leurs bénéfices. Simplement, si on simplifiait ce système fiscal, on pourrait mettre à bas toutes les techniques d'évasion fiscale. Au niveau européen, ce serait par une harmonisation fiscale. Et au niveau mondial, c'est aujourd'hui de plus en plus discuté.
Oui, alors aussi le problème, c'est peut-être que certains pays, l'Irlande ou ceux qu'on vient de citer, ont comme modèle économique, finalement, l'évasion fiscale.
C'est vrai que ces États se sont construits en concurrence les uns des autres et en volant en partie les bases fiscales de leurs voisins. Après, sous la pression des autres États, et aussi parce que à la fin, ils risquent d'y perdre si la course au moins-disant fiscal continue, si les taux d'imposition dégringolent et qu'à la fin, il n'y a plus d'impôt sur les sociétés, ils seront aussi perdants. On peut imaginer qu'on va faire pression sur eux et qu'on va aboutir à des solutions mondiales. Ça arrivait dans beaucoup d'autres cas.
Alors tous ces milliards, on a l'impression pourtant qu'on n'arrive pas à les ramener dans les caisses des États dans lesquels ils devraient être. Est-ce que vous restez optimiste, vous, puisque vous luttez tous les jours un petit peu sur ce dossier?
Quand on voit les progrès faits en 10 ans, on peut rester optimiste. Après, le problème est sérieux et il est vraiment important qu'on continue de se mobiliser et d'interpeller nos gouvernements pour qu'on ait des vraies solutions contre l'évasion fiscale. C'est possible, mais il faut vraiment agir rapidement.
Vous parliez de la transparence, il y en a une autre que vous pourriez citer ?
La transparence, une vraie réforme du système fiscal, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne, simplifier le système, mettre des taux d'imposition minimum pour qu'on cesse cette course au moins-disant fiscal. Et aussi, une mesure qui est importante, ce sera la création d'un organisme contre l'évasion fiscale à l'ONU. C'est demandé déjà par 130 pays et malheureusement, c'est les pays les plus riches qui bloquent la création de cet organisme qui permettrait de réviser les normes du système fiscal.
Donc, aujourd'hui, vous restez optimiste?
Je reste optimiste et j'espère vraiment qu'on va réussir bientôt à imposer à leur juste part d'impôt les entreprises multinationales.
On termine donc par cette note d'optimisme. Merci Lison Rebinder, merci également à Annabelle Grelier. Nette dégradation du temps, cet après-midi, la pluie va dominer sur la France, exception notable en Bretagne, qui profitera de belles éclaircies. Température stable, 13 à Brest, 16 à Paris, 22 à Nîmes. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h avec Stanislas Vazac.